Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, les bonnets en poil d'ours des soldats de la garde, les tenues improbables ou éternelles de la foule et des militaires, mais surtout 70 ans d'histoire et d'une vie unique. Les Britanniques célèbrent aujourd'hui le jubilé de platine de la reine Elisabeth. Bonjour Richard Place.
Bonjour.
Richard, en direct de Londres, Sa Majesté la Queen n'est pas encore apparue en public.
Non, on l'attend, on l'espère, avant 14h au balcon de Buckingham, c'est là qu'elle devrait apparaître. Dans une tenue forcément tout en couleurs vives, entourée de 17 membres de sa famille, comme elle l'a voulu précisément.
Londres au début de ce journal avec vous Richard, puis Marseille, dont Emmanuel Macron veut faire le laboratoire de son école du futur. Plus d'autonomie, de mission et de rémunération pour les enseignants. Il est dans la ville aujourd'hui avec le nouveau ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye. L'éducation, clé pour le développement des quartiers pauvres. L'Institut Montaigne publie un nouveau rapport sur ces quartiers. Programme d'enseignement spécifique pour les tout petits dès la maternelle et avantages en nature pour les enseignants qui y travaillent. Ce sont deux propositions que nous mettrons en lumière. 100e jour de guerre en Ukraine demain et près de 100 000 réfugiés en France. Plus de la moitié sont encore logés chez des particuliers. Ont-ils l'intention de s'installer en France, de repartir dès que possible? Le préfet chargé de coordonner l'accueil est notre invité à 13h30, Joseph Zimet. Toutes vos questions et témoignages, si vous accueillez ou participez à l'aide via une association par exemple, je vous attends 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Dans le 13-14 également, les élèves de lycée hôtelier attendus comme des rois par les restaurateurs en manque de main d'œuvre. Roland Garros, les demi-finales féminines aujourd'hui. Et puis Esther à 16 ans, la jeune fille dessinée par Riyad Satouf, revient en bande dessinée. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter, le 13-14.
Et ses enfants sur le mal, la grande avenue qui donne sur Buckingham Palace à Londres, n'ont pas école aujourd'hui. 4 jours de festivités en Grande-Bretagne pour les 70 ans de règne d'Elisabeth II. Il y a tout dans ces cérémonies. L'histoire pour cette reine qui a vécu jeune fille la Seconde Guerre mondiale et coiffé la couronne alors que le Premier ministre à Londres s'appelait Winston Churchill. Cet art si britannique de faire vivre les traditions, la touche people que fournit la famille royale. Richard Place, on vous retrouve sur le mal à Londres. Le drapeau qui signale que la reine est dans le palais de Buckingham, est-ce qu'il vient d'être dressé ?
Il a été dressé a priori, je crois bien. Je vous avoue que depuis le mal, on ne voit pas très bien Buckingham. Les arbres sont très feuillus actuellement. Donc sur cette belle avenue, on distingue que Buckingham tout au fond là-bas. Oui. C'est difficile de vous le dire, mais il semble acquis désormais que la reine sera bien là pour saluer la foule à la fin de ce défilé, un peu avant 14h heure française. Ce que tout le monde attend, c'est cet instant en particulier, même si aujourd'hui, les dizaines de milliers de personnes qui sont là, qui sont massées depuis le début de ce trooping de colore, étaient ravis de voir le défilé militaire, c'est 1400 militaires, l'orchestre également de l'armée qui se trouvait là, ainsi que la famille royale, les 17 membres de la famille royale qui participent à ce défilé aujourd'hui, qui ont parcouru cette avenue dans un sens et qui vont la parcourir dans l'autre, soit à cheval, comme c'était le cas pour le prince William par exemple, ou la princesse Anne, ou dans les carrosses dans lesquelles on a pu voir Kate, l'épouse de William, ou Camilla Parker Bowles, l'épouse du prince Charles.
Richard Place à Londres. En plus, il fait beau, me semble-t-il, hein.
Oui, effectivement, on est béni des dieux. En même temps, la reine est son représentant direct ici.
En direct avec Olivia Branger, Richard, Elisabeth II a connu 14 premiers ministres, connu l'époque où l'homosexualité était punie par la loi et les pièces de théâtre surveillées par la censure. Elle a connu le divorce de ses enfants. Elle est devenue, elle, la Windsor, une figure de la pop culture. Elle a commandé des centaines et même des milliers de tenues de toutes les couleurs au fil de ses 70 ans de règne. Alors les spectateurs venus à Londres ne voulaient pas manquer cette journée. Avec dans un coin de la tête que c'est peut-être une des dernières fois que la souveraine de 96 ans apparaît en public. Farida Noir, vous êtes vous aussi sur le Mall à Londres. Quelle ambiance ?
Alors ici, on attend un autre passage le long de ce mall de cette parade The Trooping the Colour. En attendant, eh bien c'est le lunchtime pour tout vous dire sur la pelouse. Là, ouais. Les Britanniques ont quitté les barrières, le temps de croquer dans un petit sandwich ou une petite douceur comme un petit scone. Il fait beau, l'ambiance est au top et les Anglais sont ravis. Ils ont vu passer comme l'a dit Richard, Kate Middleton, Camilla, mais eux, ils attendent la reine au fait pour lui rendre hommage. Ils espèrent la voir au balcon de Buckingham Palace. Ce sera ça le clou du spectacle. L'impression aussi ici. d'un hommage qu'ils veulent rendre à leur granny, leur grand-mère. Plus elle vieillit, 96 ans, et plus elle gagne en popularité. Ceux qui la célèbrent ici me parlent d'une femme merveilleuse. Il y a une femme tout à l'heure qui me disait c'est une déesse, elle se plaint jamais, elle a fait un travail formidable. Alors oui, elle a traversé des tempêtes avec une famille qui est bancale, qui a ses problèmes, mais quelle famille n'en a pas, me disait aussi une femme tout à l'heure, 70 ans de règne. Il y a eu le Brexit, il y a eu le Covid, les crises, l'hyperinflation aujourd'hui, et la seule chose qui bouge pas en fait, c'est elle, c'est la reine, toujours là, même malgré ses problèmes de santé, des problèmes de santé qui inquiètent quand même ces sujets. C'est peut-être son dernier jubilé, me disait Bérangère, une Française tout à l'heure, fan de la reine, mais je veux pas y penser, elle est encore là, on va la célébrer comme il se doit et lui montrer combien on l'aime.
Farida Noir en direct de Londres avec Lucien Lefebvre. Le parti républicain irlandais, le Sinn Féin, remercie Elisabeth II, chose rarissime à l'occasion de ce jubilé, pour son rôle dans le processus de paix en Irlande du Nord. Encore des paroles de Britanniques, ceux-là suivent les cérémonies du jubilé depuis un pub de Londres. Témoignage au micro de Jean-Sébastien Soldaini.
J'étais sur le mall le jour du couronnement d'Elisabeth. J'avais 7 ans, c'était avec mon papa. Pardon, je suis ému. Et rien que pour ça, c'est merveilleux d'être là.
Cette reine est un diamant. Elle est simplement là pour tout le monde, pas seulement pour les Anglais. C'est merveilleux tout ce qu'elle a fait pour notre pays, mais aussi pour le monde entier.
Et alors que des dizaines de chevaux parcourent les rues de Londres pour la parade militaire, la France a offert un cheval à Elisabeth II à cette occasion, fabuleux, du Maucourt, un des plus beaux chevaux de la garde républicaine. Et Emmanuel Macron a tenu à présenter ses vœux à la reine pour ses 70 ans de règne.
Madame, vous êtes notre amie, notre si proche alliée, notre exemple de service aux autres. Vous célébrez aujourd'hui, c'est célébrer l'amitié sincère et profonde qui unit nos deux pays et votre dévouement pour la servir. Votre Majesté, j'ai le privilège de vous adresser, au nom du peuple français, mes félicitations les plus sincères pour votre jubilé de platine.
Voilà pour le message d'Emmanuel Macron ce matin de la diversité de l'Europe, alors que l'on célèbre ce jubilé de la reine en Italie. Ce 2 juin est le jour de la fête de la République, qui marque la naissance de ce régime après la Seconde Guerre mondiale et les années de fascisme.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvy.
C'est le ministre dont les premières décisions seront les plus suivies. Après un premier déplacement, juste après sa nomination dans le collège de Samuel Paty, Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation, est aujourd'hui à Marseille aux côtés d'Emmanuel Macron. Ministre attendu parce que sa nomination fut une des rares surprises de la composition de l'équipe Borne, parce que la rentrée s'annonce compliquée en pleine crise de recrutement des enseignants. Et puis Emmanuel Macron a fait de l'éducation l'un des grands chantiers de son deuxième quinquennat. L'école que le président appelle de ses voeux laisse plus de liberté aux directeurs, liberté pédagogique et de recrutement. Il souhaite aussi confier de nouvelles missions aux enseignants contre de plus fortes rémunérations. C'est de tout cela qu'il s'agit aujourd'hui à Marseille, où les écoles, souvent en piètre état, sont en chantier après des années de laisser-aller. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Envoyé spécial de France Inter à Marseille. Simon, le président de la République et le ministre de l'Éducation visitent ce matin une de ces écoles dites du futur. C'est ce qui est prévu au programme.
Oui, absolument, mais Pap Ndiaye a beau être, vous l'avez dit Bruno, le ministre le plus attendu, en particulier par des enseignants qui voudraient être rassurés avant cette rentrée de septembre qu'ils craignent catastrophique, c'est bien Emmanuel Macron en fait que les enfants veulent voir, ou plutôt Manuel.
Je vous ai vu gagner comme Marine Le Pen.
Donc là, c'est la classe des grands, là, c'est ça?
Le président qui a lancé il y a 9 mois ses expérimentations dans 59 écoles marseillaises. Comme ici, avec ce labo de mathématiques où les petits découvrent avec des robots les balbutiements de la programmation informatique.
Donc là, le défi du jour, c'était que chaque abeille aille butiner sa fleur, mais sans se rentrer dedans.
Voilà donc l'école de demain, selon le président. Une école qui part du terrain, plus souple, plus agile, selon le vocable macronien.
Si on veut aller beaucoup plus vite et plus fort, on a besoin de mettre plus de moyens, mais de le faire en donnant aussi plus de liberté à celles et ceux qui font. Et notre ambition avec Monsieur le Ministre, c'est ensuite dans les prochains mois de pouvoir généraliser cette approche.
Mais il y a un projet qui fait déjà très peur au monde enseignant, la liberté pour les directeurs de choisir leurs professeurs. Même le maire de Marseille, Benoît Payandou, le confie en privé. Il espère que le nouveau ministre mettra son veto à cette école à la carte. Sauf que Papendiaï ne dit pas un mot. Mardi, déjà à l'hôpital de Cherbourg, sa collègue de la santé, Brigitte Bourguignon, n'avait pas ouvert la bouche. Le vrai ministre, et sur tous les sujets, s'appelle Emmanuel Macron.
Simon Le Baron en direct de Marseille avec Christophe Papon pour France Inter, l'éducation. C'est un des aspects forts du rapport de l'Institut Montaigne qui paraît aujourd'hui à propos des quartiers populaires. 5 millions de personnes vivent dans les plus de 1500 quartiers prioritaires politiques de la ville. Et contrairement à ce que beaucoup disent et pensent, ils bénéficient de moins de moyens humains et financiers que beaucoup d'autres collectivités françaises. C'est ce qui ressort de ce rapport. Leurs auteurs font 31 propositions. L'un des co-auteurs avec le maire de Clichy-sous-Bois, Olivier Klein, est avec nous. Bonjour Hakim El Karoui.
Bonjour.
D'abord le constat, Hakim El Karoui, ces quartiers contribuent à la solidarité nationale plus qu'ils n'en bénéficient.
Oui, c'est. Alors on a fait ce travail avec l'idée qu'il fallait regarder les faits et les chiffres plutôt que les discours, les fantasmes, donc la réalité plutôt que le fantasme. Et on a regardé comment ça fonctionnait, comment fonctionnaient d'un point de vue économique ces quartiers. Et ce qu'on a vu, par exemple, c'est que la Seine-Saint-Denis est le 8e département qui contribue au financement de la protection sociale, et puis c'est le dernier receveur. Ouais. Alors que c'est le plus jeune, là où le plus pauvre, et au passage aussi là où il y a le plus d'immigrés.
40% de ces quartiers prioritaires politiques de la ville n'ont pas de crèche, par exemple, accès à un médecin généraliste, à une agence Pôle emploi, tout ça est compliqué pour les habitants de ces quartiers.
Oui, parce que les services publics, en fait, ne sont pas là, ou quand ils sont là, ils sont pas assez performants. Et il y a deux raisons. Il y a une raison d'absence de volonté politique, tout simplement parce que dans les quartiers pauvres, ben en fait, il y a moins de capacité de négociation politique. Et puis aussi parce que c'est compliqué d'aller travailler là-bas et il faut se dire la vérité.
Alors, on va voir comment changer la logique. Juste encore une remarque à Hakim El Karoui. Via la politique de la ville, beaucoup d'argent a été dépensé pour ces quartiers. 200 milliards d'euros ces 40 dernières années, disait l'Assemblée nationale il y a quelques mois. Qu'est-ce qui ne marche pas?
Ben, c'est que quand on compte cet argent, en fait, l'essentiel de cet argent, voire la quasi-totalité, c'est de l'argent qui a été dans le bâtiment. Donc ça sert à faire de la rénovation de HLM qui était en très mauvais état, certains menaçaient de s'effondrer. Les HLM qui ont été construits très très vite dans les années 60 au moment de la croissance démographique, mais en fait très peu est fait sur les habitants. Et nous ce qu'on dit c'est qu'il faut organiser, développer, mettre un poids politique sur les habitants autant que ce qu'on a fait sur les bâtiments.
Les habitants, allons-y, parmi les 31 mesures que vous suggérez, certaines concernent l'éducation, c'est peut-être là que c'est le plus novateur, des programmes de stimulation cognitive en maternelle et puis des moyens de fidéliser les enseignants dans ces quartiers pauvres.
Oui, parce que c'est deux des grands problèmes. D'abord, il faut commencer le plus tôt possible, toutes les études le montrent, tout se joue dès l'école maternelle. Et il faut accepter le fait que les enfants, les très jeunes enfants de ces quartiers-là, ils vivent souvent dans des conditions sociales, mais aussi culturelles, qui ne sont pas les mêmes que celles du reste de la population. Il y a deux fois plus d'enfants d'immigrés dans les quartiers pauvres. En Seine-Saint-Denis, on est à 30%. Et donc, il y a une distance culturelle, il y a un rapport à la langue qui n'est pas la même, etc. Et donc, il faut aider ces enfants dès le plus jeune âge. Et effectivement, il y a des expériences qui ont été menées aux États-Unis, qui sont très efficaces, qu'on peut déployer en France.
Comment oui. Fidélise-t-on les enseignants? C'était le deuxième point.
En fait, il y a plusieurs moyens. Un, il y a des moyens financiers. Ça a commencé à être fait. Je pense qu'il faut continuer à augmenter les primes dont peuvent bénéficier les enseignants, notamment quand ils restent longtemps. La deuxième chose, c'est que on est dans un moment où les jeunes, notamment, cherchent du sens. Ben, aller enseigner dans les quartiers pauvres, c'est clairement donner du sens à sa vie et à son métier. Et puis la troisième chose, c'est qu'il y a aussi une récompense qu'on peut imaginer qui n'est pas monétaire. Donner aux enfants des enseignants des capacités d'accès aux meilleurs établissements d'enseignement supérieur, c'est aussi pour eux une motivation.
Et les programmes de stimulation cognitive dont on parlait à l'instant, en quoi consistent-ils précisément?
C'est des sortes d'éducateurs spécialisés qui vont faire de la stimulation cognitive dès la première année de section de maternelle et qui ont des outils, des savoir-faire qui leur permettent d'encourager les enfants à développer en fait leurs facultés intellectuelles et ça va bien au-delà de l'apprentissage de la langue, ça va au-delà de l'idée que la maternelle c'est le début de l'école. Là, on fait complètement autrement. C'est entre nous la mesure que l'on propose qui coûte la plus cher, mais à mon avis, c'est aussi la plus efficace.
Une autre mesure que vous jugez innovante et importante pour ces quartiers, Hakim El Karoui?
Je vais dire une évidence. En fait, ces quartiers, ils ont besoin de sécurité. Pas parce que ils sont une source de délinquants qui ensuite vont casser les pieds des autres habitants, par exemple de la région parisienne, mais d'abord parce que la délinquance, c'est le problème des habitants des quartiers. Et on a été très surpris de constater que, bah, par exemple, en Seine-Saint-Denis, il y a 20 fois plus de crimes par arme que dans le département de l'Indre, donc Châteauroux, bah, il y a 2 fois moins de forces de l'ordre par habitant. Et ça, c'est pas possible. Nous, on a calculé qu'il manquait 13 000 forces de l'ordre dans les quartiers politiques de la ville. Et c'est un sujet de répartition parce que Éric Zemmour, il n'est pas candidat à Montreuil où il est né, il est candidat à Saint-Tropez. Et je pense que ce serait bien qu'il fasse campagne pour plus de sécurité dans les quartiers nord. Et pour ça, il faut probablement prendre quelques gendarmes de Saint-Tropez pour les mettre dans les quartiers nord.
Et le coût de ces mesures?
Pas grand-chose. Aujourd'hui, on a calculé que l'investissement public est négatif dans ces quartiers, pour les habitants. Il manque 1 milliard. Nous, ce qu'on propose, c'est d'augmenter de 2 milliards, c'est-à-dire de passer de moins 1 à plus 1. Au niveau du budget de l'État, c'est epsilonesque, mais ça peut avoir des effets importants. D'abord parce que il faut que la République tienne ses promesses. La République, elle doit être égale pour tous. Et puis après, derrière, c'est un vrai enjeu de cohésion de la nation. Il y a trop de problèmes qui viennent de ces quartiers. Il y a trop de débats malsains sur ces quartiers. On peut agir et il se passe des choses très positives par ailleurs.
Hakim El Karoui, co-auteur de ce rapport de l'Institut Montaigne, l'avenir se joue dans les quartiers pauvres. L'entretien a été enregistré en fin de matinée. À 10 jours du premier tour des législatives, la campagne se déroule à relativement bas bruit. Qui arrivera en tête en termes de voix à la fin de la semaine prochaine? La NUP, l'Union de la Gauche, ou la majorité présidentielle? Quelle sera l'ampleur de l'abstention? Voilà deux questions. Une des circonscriptions que l'on regardera de près le 12 juin, c'est la 7e circonscription de Paris, à cheval sur les 4e, 11e et 12e arrondissements. Le ministre de l'Europe, Clément Beaune, s'y présente face à 12 autres candidats. Rappelons que les ministres battus devront quitter le gouvernement. Face à lui, pour la France insoumise, sous l'étiquette NUP, il y a la féministe Caroline Mécari. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient obtenu dans cette circonscription de bons résultats au premier tour de la présidentielle. Reportage Lucie Dupressoir, un ministre et ses adversaires en campagne.
Clément Beaune, je suis candidat aux élections législatives dans la circonscription.
Ministre et candidat. Pas un handicap selon Clément Beaune, mais un atout.
Ça m'intéresse d'être évidemment au gouvernement. Je crois que ça n'est en aucun cas une trahison, mais plutôt un supplément utile pour la circonscription et en aucun cas un abandon.
Mais à sa gauche, la candidature NUP pourrait bien contrarier ce plan au point d'en faire un axe de campagne.
J'explique les dangers, parce qu'il faut dire les choses. De ce que serait, je crois, j'en suis convaincu, bon, pas NUP, parce que NUP c'est un cache-sexe, mais la France insoumise au pouvoir.
De quoi faire réagir la candidate NUP de la circonscription, Caroline Mécari.
Il n'est pas au niveau du débat politique que mérite cette circonscription. Quand il me traite de visage le plus radical de la France insoumise, ça traduit en réalité sa fébrilité.
Et c'est autrement qu'elle entend faire campagne.
Je ne vais pas faire comme lui. Moi, ce que j'attaque, c'est le programme en réalité, pas la personne. Ça ne m'intéresse pas, la personne.
Lui, il me voit beaucoup, hein. Il peut confirmer. Le terrain, j'en fais.
Auprès des commerçants, le candidat LR Aurélien Véron se veut lui proche de ses concitoyens et pointe le profil de Clément Beaune.
Il est déconnecté de la vie du centre. Et de toute façon, il ne sera pas député puisqu'il sera ministre. Le vrai député, ça sera sa suppléante. On est sur une techno pure qui ne répond pas à ce que les Parisiens veulent.
Reste à savoir à quels arguments, locaux ou nationaux, les électeurs de la circonscription seront sensibles.
Et il y a 13 candidats en tout dans cette circonscription. Vous en trouverez la liste complète et d'autres éléments sur cette campagne sur franceinter.fr. Un accident très spectaculaire ce matin entre Lyon et Saint-Étienne. Un camion Ben a chuté depuis un pont sur les voies ferrées reliant Lyon et Saint-Étienne. Cela à Saint-Chamond, chute de 5 mètres de haut. Le conducteur n'est que légèrement blessé. La circulation des trains est évidemment interrompue. Une grue géante doit permettre de relever le camion. Jour de grève au Quai d'Orsay, la suppression des grands corps dans lesquels les hauts fonctionnaires travaillaient à vie, décidée par le président de la République, touche notamment le corps diplomatique. Ajouté aux suppressions de postes, au fil des années, une partie des diplomates estiment leur mission en danger. 6 syndicats et un collectif de 500 diplomates appelaient donc à la grève aujourd'hui. Manifestation au Quai d'Orsay, 150 diplomates environ, eux-mêmes un peu surpris de se trouver dans cette situation. C'est un récit de Louise Baudet.
Quai d'Orsay, faire du bruit.
Faire du bruit, pas vraiment
forcément l'habitude de la maison, les slogans sont timides, les costumes cravates nombreux et le mégaphone rencontré dans de toutes autres circonstances.
Plus pour gérer en fait des Français qu'on rapatriait, des foules importantes, par exemple pendant le Covid, c'était un contexte un petit peu différent effectivement. Le diplomate, ça ne s'improvise pas, c'est un métier, c'est une compétence qui se construit au cours d'années et d'années d'expérience. Il y a des gens extraordinaires partout dans toute l'administration, simplement on n'est pas bon partout, dans tous les champs.
Élément déclencheur, la réforme de la haute fonction publique, mais sont également pointés.
Une baisse dramatique des moyens, on a perdu 50% de nos effectifs en 30 ans. Une marginalisation du Quai d'Orsay dans l'appareil d'État. Si on continue dans cette voie, la France va être le seul grand pays à ne plus avoir de diplomatie professionnelle qui ne pourra pas défendre les intérêts de la France, promouvoir ses principes et protéger les Français à l'étranger.
Fiers de leur métier, oui, mais pas jaloux de leurs privilèges, qui ne sont pas d'ailleurs si grands, assure l'ex-ambassadeur à Alger, Xavier Driancourt.
Interroger des gens qui reviennent de pays difficiles, vous attrapez des maladies dont vous ne faites pas pendant votre vie entière, c'est quand même une vie dont on sous-estime les contraintes.
Les grévistes l'assurent, leur mouvement est massif, mais il est trop tôt pour faire les comptes. Le continent américain se réveille tout juste.
Grève aussi d'employés des industries électriques et gazières. Aujourd'hui, elle a eu des conséquences dans le nord de la France. Ils demandent de meilleurs salaires. Quelques 85 000 foyers ont été privés de courant la nuit dernière. Nous allons à présent à la rencontre des rois du pétrole. Alors que le secteur de l'hôtellerie-restauration évalue à 2 à 300 000 le manque de personnel, plus aigu encore à l'approche de l'été, les diplômés des écoles hôtelières sont courtisés par beaucoup de professionnels, à tel point qu'en ce moment, ce sont eux qui choisissent. La preuve, dans ce lycée hôtelier de Dinard, Ille-et-Vilaine, François Rosy, France Bleu Armorique.
Les futurs diplômés du secteur de l'hôtellerie-restauration ne se dirigent plus forcément vers les établissements les plus prestigieux. Patrick Renoux, directeur délégué aux formations au lycée hôtelier de Dinard.
Ils recherchent plutôt du sens à leur travail. Des endroits où ils sont considérés, où on leur offre des responsabilités, où ils ont une part d'autonomie dans leur travail. Le Covid a précipité un certain nombre de choses et je crois qu'ils sont plus réellement attachés au prestige de l'entreprise, mais plutôt à la qualité de la manière dont ils vont être accueillis au sein de cette entreprise.
La tension dans leur secteur d'activité permet à ces futurs diplômés d'être sélectif. Yanis, 18 ans, en terminale au lycée hôtelier de Dinard, en est bien conscient.
Au niveau des horaires, il faut que ce soit correct. Aussi, la bonne ambiance. Plutôt un chef avec qui on s'entend bien et on travaille bien ensemble.
Dans l'établissement qui l'emploie, jusqu'à la fin de l'été, on s'est déjà adapté pour être plus attractif auprès des jeunes diplômés.
Souvent, on n'a pas des week-ends en restauration. Et du coup, bah, on va tourner avec l'équipe pour que je puisse avoir des week-ends également. Et aussi, bah, au niveau du respect des horaires et qu'on me paye exactement ce que je fasse. Et maintenant, c'est un peu devenu le cas, quoi.
Mais parce qu'une époque, ça l'était pas.
Il y a beaucoup d'heures sup à un moment qui n'étaient pas forcément payées. Aujourd'hui, les restaurateurs, ils peuvent pas se permettre de pas payer des salariés, sinon ils vont partir ailleurs, quoi.
Il y a les conditions de travail, mais au moment de faire son choix, la nouvelle génération est également de plus en plus vigilante sur le respect de l'environnement de la part des futurs employeurs.
230 000 euros requis contre la compagnie Yemenia Airways. Elle est jugée en ce moment à Paris pour homicide et blessures involontaires. C'était le crash d'un avion en 2009 au large des Comores. Et au Yémen, justement, depuis 8 ans, la guerre civile a provoqué des dizaines de milliers de morts. Guerre civile, guerre régionale indirectement, face à face les rebelles houthis soutenus par l'Iran et le gouvernement soutenu par l'Arabie Saoudite et les Émirats. Trois entreprises d'armement françaises se sont-elles rendues complices de crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans ce conflit? C'est l'accusation de trois organisations de défense des droits de l'homme. Bonjour Bertrand Galichet.
Bonjour Bruno.
Elles viennent de déposer plainte devant le tribunal de Paris contre Dassault, Thales et MBDA.
Oui, l'ONG yéménite Muwatana for Human Rights a enquêté sur le terrain et dit avoir récupéré des preuves de l'utilisation d'armes françaises contre des civils. La plainte déposée devant le tribunal judiciaire de Paris a pour but de montrer la responsabilité d'industriels français qui livrent des armes à la coalition Émirats et Arabie Saoudite. Canel Lavitte, du Centre européen pour les droits constitutionnels et les droits humains, une ONG basée à Berlin.
L'argument, c'est de dire que, par exemple, en exportant 59 avions Mirage sur environ 130 avions de combat des Émirats Arabes Unis, donc de la coalition, on va apporter un soutien opérationnel important à la coalition qui va donc faciliter les frappes aériennes menées par cette coalition et donc faciliter la commission d'attaques potentiellement en violation du droit international humanitaire au Yémen.
Les soupçons de complicité de crimes de guerre et de complicité de crimes contre l'humanité ne doivent pas rester dans l'ombre, disent les organisations humanitaires. Même si les entreprises agissent dans le respect des procédures françaises. Émeric Helouin d'Amnesty International qui soutient la démarche des ONG ayant déposé la plainte.
Les industriels ne peuvent pas se cacher derrière la licence d'exportation d'armes délivrée par le Premier ministre. Ils ont la responsabilité en tant qu'acteur économique de s'assurer que leurs équipements sont utilisés dans le respect du droit international humanitaire. C'est leur obligation.
La principale difficulté à laquelle peuvent se heurter de telles plaintes étant le secret défense qui bloque souvent les procédures.
Bertrand Galichet avec Johanna Gabric. Ce 2 juin marque la fin d'une trêve de 2 mois des combats négociés par l'ONU et les belligérants. Trêve reconduite pour 2 mois, on l'a appris juste avant ce journal. Dans la série des femmes puissantes, celle-ci a une place dans les premiers rangs. Sheryl Sandberg, 53 ans, numéro 2 de Facebook, qui s'appelle Meta depuis l'année dernière. Sheryl Sandberg va quitter son poste. Elle était dans l'entreprise depuis 14 ans. Alors, ce n'est pas la reine d'Angleterre, mais cette américaine aussi a une histoire qui mérite d'être contée. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour.
Elle a fait Facebook, une machine de guerre économique avec ses forces et ses excès.
Oui, assurément, la fin d'une époque, souligne Mark Zuckerberg lui-même dans un post sur Facebook. À son arrivée il y a 14 ans, en 2008, Facebook n'est alors qu'un nouveau-né balbutiant. Les équipes pataugent à la recherche d'un modèle économique pour valoriser l'entreprise. Et le fait d'armes économique de Sheryl Sandberg, alors âgé de seulement 23 ans, passé par Google et l'administration Clinton, est d'avoir rendu, grâce à la publicité ciblée, Facebook profite 2 années seulement après son arrivée. Suivront le lancement en bourse, une valorisation record d'une centaine de milliards de dollars 4 années plus tard. Et le revers de cette médaille apparaîtra dès 2016 avec le scandale Cambridge Analytica, l'utilisation de Facebook pour cibler, manipuler l'opinion publique jusqu'à l'élection présidentielle américaine. Dans son long message de départ, Sheryl Sandberg souligne le poids de cette responsabilité aujourd'hui mondiale et souligne l'impératif, je cite, de protéger la vie privée. Aujourd'hui philanthrope à la tête d'une fortune qui dépasse 1,6 milliard de dollars, Sheryl Sandberg explique vouloir se consacrer à sa fondation pour les femmes et souligne que Facebook, aujourd'hui engagé dans une nouvelle étape avec la réalité virtuelle, on le sait, le métavers, n'a plus vraiment besoin d'elle.
Et c'est à l'automne qu'elle doit quitter Meta, elle va rester au conseil d'administration. L'homme qui devrait lui succéder s'appelle Javier Olivan, il est chez Facebook depuis 2007. Est-ce que ce sera un changement poste pour poste ou une réorganisation? Cela reste à préciser. À Roland Garros aujourd'hui, la journée commence à 15h. Ce sont les demi-finales du tableau féminin. La numéro 1 mondiale, l'imbattable polonaise Iga Świątek, joue contre la russe Daria Kasatkina. Ensuite, l'italienne Martina Trevisan face à l'américaine Coco Gauff. Coco Gauff a 18 ans, elle a 16 ans, l'âge du lycée. Esther, l'héroïne de bande dessinée Driyad Satouf, revient en librairie. L'auteur raconte comment elle a grandi depuis ses 10 ans. C'est donc le 7e tome. Et Driyad Satouf s'amuse toujours autant, à la fois à créer et suivre la vie de cette adolescente.
Ce qui est marrant avec l'Esther au lycée, c'est qu'elle est à la fois dans une recherche de l'indépendance, elle voudrait être considérée un peu comme une adulte, et donc elle se confronte un peu avec ses parents. En effet, elle a des crises d'ado, etc. Mais en même temps, c'est quand même un énorme bébé, donc dès qu'elle se retrouve toute seule, par exemple, à prendre le train, ça devient tout de suite une sorte d'odyssée presque insurmontable. La réalité fait en sorte qu'on est toujours surpris. Je serais pas capable d'inventer les aventures qui lui arrivent. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai absolument besoin de cette vraie personne, parce qu'Esther existe réellement. Et c'est vrai que quand elle se retrouve à être babysitter, il y a une histoire dans cet album où, en fait, elle se retrouve babysitter de filles qui sont plus grandes qu'elle et plus âgées qu'elle et 2 énormes racailles qui la terrorisent toute la soirée. Ça, c'est des choses que je pourrais pas inventer. C'est aussi ce que j'aime bien faire dans mes bandes dessinées, notamment avec les cahiers d'Esther, c'est montrer que toutes les vies sont incroyables, en fait. Et ce que j'adore, c'est quand les histoires de rien deviennent soudain des aventures extrêmement complexes. C'est ça qui me plaît beaucoup.
Propos recueillis par Cyril Ardot, les cahiers d'Esther, histoire de mes 16 ans, c'est en librairie aujourd'hui. Allez, petit crochet par Londres. À la fin de ce journal, Richard Place, on vous retrouve. La reine apparue au balcon de Buckingham, mais quasi seule, on l'attendait en famille. La première apparition, quasi seule.
Oui, un peu pour pouvoir montrer à quel point ce trooping de color est particulier et pourquoi il est pour célébrer ses 70 ans de règne à elle. C'est elle et elle seule quasiment qui est arrivée sur ce balcon vêtue d'un bleu pervenche avec un chapeau de la même couleur et des gants blancs, toujours très élégante, toujours évidemment tirée à 4 épingles. Et c'était ce moment que les gens venaient voir ici aujourd'hui, ravis d'assister à cette parade militaire qui vient de s'achever. Mais surtout, ils voulaient voir leur reine, savoir qu'elle va bien, suffisamment en tout cas, pour apparaître à ce balcon, ce qui vient de se produire.
Bleu pervenche, donc, j'ai perdu mon pari au sein de l'équipe du 13-14. Merci beaucoup Richard Place en direct de Londres. Dans un instant, la météo.
Bonjour madame, nous comptons vous cambrioler demain. Vous serez bien à votre travail.
Ah oui, absolument. Écoutez, vous pouvez pas rater la maison, c'est celle avec la pancarte au Omiris. Tiens, bah il a raccroché.
On est tellement plus détendu quand on est protégé par Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, le bon rapport sécurité-prix, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par UPS, AgriCNAPS.
Chin Chin présente Albert. Albert le stagiaire voit flou sans ses lunettes, mais quand il les porte, il voit clair. Claire, l'autre stagiaire. Pour prendre l'air, il l'emmène à la mer où l'attend un soleil d'enfer. Vite, il lui faut des lunettes de soleil. Mais si en changeant de verre, il voyait moins clair? Quelle galère! Heureusement, avec Chin Chin, Albert a en plus des lunettes de soleil à sa vue. Une paire de lunettes de plus pour 1 euro de plus, c'est Chin Chin. En exclusivité chez Afflelou. Offre valable jusqu'au 31 décembre, voire conditions en magasin. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien.
Le temps de ce jour.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Depuis 30 ans, les experts Euromaster sont au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Bonjour Jean-Pierre Rameau.
Bonjour Bruno.
Avec la chaleur, le temps va tourner à l'orage cet après-midi.
Oui Bruno, avec une masse d'air chaud, humide et instable, les orages vont gagner du terrain cet après-midi entre l'Aquitaine et Poitou-Charentes, mais aussi du centre au Massif central et jusque vers les massifs jurassiens et alpins. Attention, ces orages seront localement violents, accompagnés de rafales de vent et de chutes de grêle. Ça sera plus calme en remontant vers la Bretagne, la Normandie, l'île de France, le Nord-Pas-de-Calais et la région Grand Est, avec un ciel partagé entre éclaircies et cumulus bien inoffensifs. En revanche, l'ensoleillement sera généreux pour les régions méditerranéennes. Les températures maximales évolueront entre 21 et 31 degrés du nord au sud. Comptez 21 à Cambrai, 23 à Quimper, 25 à Paris, 27 à Mulhouse, 28 à Besançon, 29 à Lyon et Bordeaux. Prévoyez 30 degrés dans les plaines toulousaines et 31 à Montélimar.
Jean-Pierre Rameau, Météo France, il est 13h30.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
Combien de réfugiés ukrainiens sont désormais installés en France? Quelle part a l'intention de s'installer durablement? Quelles conditions de travail, de logement, de scolarisation pour les enfants? Alors que cela fera demain 100 jours que la guerre en Ukraine a commencé, nous faisons le point sur ce sujet aujourd'hui. 01 45 24 7000 est l'appli France Inter pour vos questions. Vous avez peut-être accueilli des réfugiés depuis la fin février. Comment cela se passe-t-il? Est-ce qu'au fil des semaines, des difficultés apparaissent ou pas? Ou alors vous avez participé à votre niveau à l'accueil dans une association, dans votre commune, l'école de vos enfants? Quels sont les besoins aujourd'hui et comment se prépare la rentrée? Intervenez, notre invité jusqu'à 13h45 est le préfet Joseph Zimet, qui dirige la cellule interministérielle d'accueil des réfugiés ukrainiens. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et merci de venir dans les studios de France Inter. Combien de réfugiés ukrainiens en ce 2 juin en France?
C'est une question difficile. Oui. Officiellement, nous recensons un petit peu plus de 87 000 personnes qui sont couvertes par une allocation que nous versons à ces personnes, que l'OFI verse à ces personnes.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Néanmoins, nos remontées du terrain par nos préfectures évaluent à près de 95 000 le nombre de déplacés. Ce n'est pas une science exacte, vous l'avez compris, car les déplacés sont mobiles. Ils rentrent, parfois ils repartent, ils changent de pays, mais grosso modo, nous cheminons vers le chiffre de 100 000, qui était l'objectif qui avait été fixé début mars par le président de la République à l'ensemble des services de l'État.
Avec, j'imagine, de moins en moins de personnes qui arrivent au fil des semaines.
Alors le rythme s'est considérablement ralenti. La difficulté pour nous néanmoins, c'est qu'il y a encore des gens qui n'ont pas poussé la porte de nos préfectures, qui ne se sont pas fait connaître encore pour activer leurs droits. Et donc, on constate une lente progression, mais qui dure quand même depuis un mois. Ce qui veut dire qu'on a déjà, dans certains départements, dans le sud notamment, car la présence des déplacés ukrainiens est très concentrée, elle suit une certaine logique. Nice accueille 8600 déplacés ukrainiens. Nice est la première ville ukrainienne de France. Les Alpes-Maritimes sont sous forte pression, c'est également le cas de Marseille, les Bouches-du-Rhône, l'Hérault, et également... Voilà. Donc
Le sud, pour des questions frontalières, géographiques, parce qu'il y a une communauté ukrainienne importante, parce qu'ils vont vers l'Espagne où on sait qu'il y a une communauté ukrainienne importante.
Alors, vous avez raison, la France, dans les premiers jours de la crise, a été un pays de transit. On arrivait beaucoup, mais on ne faisait que passer. On arrivait à Strasbourg, on arrivait à Paris, on arrivait à Nice. Nice a vu passer 23 000 déplacés depuis le début de la crise. 8 000 sont restés, effectivement. Le reste sont des gens qui sont allés en Espagne où il y avait, vous avez raison de le rappeler, des communautés ukrainiennes déjà structurées. Ça a été un des déterminants pour l'arrivée, l'accueil, le choix de destination. La France a été un pays un peu intermédiaire. On est loin des 2 à 3 millions de réfugiés ukrainiens qui sont arrivés en Pologne. L'Allemagne en accueille entre 400 et 500 000. Les comptabilités ne sont pas encore tout à fait stabilisées. Et la France se singularise un petit peu. Donc oui, les Ukrainiens ont prioritairement rejoint d'autres Ukrainiens qui étaient préétablis. Il y a un tropisme littoral qu'on constate, des Pyrénées-Orientales à Nice, on a à peu près aujourd'hui 17 000 personnes. Donc on est aujourd'hui un petit peu en tension dans ces départements.
Littoral, grande ville,
grande métropole.
Lyon-Paris.
C'est une autre difficulté que nous avons aujourd'hui, car nous rentrons dans une deuxième étape de la crise. La France a réussi le premier accueil. Je dirais que la France a efficacement et dignement accueilli les réfugiés depuis le début du printemps. Nous rentrons maintenant dans une deuxième étape de cette crise, qui est le passage de l'hébergement un petit peu d'urgence au logement. Et là, on bute sur une grande difficulté. Il y a plus de 2 millions de personnes en France qui attendent un logement. Et surtout, il y a dans notre jargon ce qu'on appelle les zones détendues. Et ce ne sont pas les grandes métropoles, évidemment. Oui. Les grandes métropoles concentrent beaucoup de monde et beaucoup. Il y a peu de logements vacants. Et donc aujourd'hui, nous avons un enjeu logistique, d'une certaine façon, mais aussi un peu moral, arriver à convaincre un maximum de déplacés de changer de destination, de rejoindre ce qu'on appelle des villes moyennes, où là, dans un certain nombre de départements, il y a des logements. Car, vous l'avez compris, tout ça est basé sur une intuition, une hypothèse de travail selon laquelle un certain nombre, un grand nombre de ces déplacés vont rester encore quelques mois, peut-être une année, car les événements en Ukraine, vous le savez, sont très instables et incertains.
Et aujourd'hui, 90% de ces personnes sont encore dans des logements pas autonomes, mais temporaires.
Alors, la question de l'hébergement est complexe. Aujourd'hui, je crois que ce qu'il faut avoir en tête, c'est à peu près 45 000 ménages ukrainiens qui sont hébergés et logés pour certains.
Femmes et enfants, essentiellement.
Alors, 80% des adultes, près de 80% sont des femmes. Ouais. Pour des raisons évidentes, les hommes sont restés
à la guerre.
Donc le ménage type, c'est une mère avec deux enfants, une grand-mère, un grand-père. Bon. Il y a aujourd'hui 20 000 personnes dans l'hébergement citoyen recensé. Recensé, ça veut dire que il y a eu un contact avec la préfecture ou avec des associations. Nous avons demandé aux associations d'aller un petit peu vérifier ce qui se passait dans ces familles.
Hébergement citoyen, c'est des particuliers, pour dire les choses.
Ce sont des particuliers. On est, évidemment, je crois que ce qu'il faut relever, c'est l'élan de générosité qui s'est révélé au début du printemps est spectaculaire.
On va l'entendre
dans
au standard.
Dans toutes les crises humanitaires, les Français sont généreux. Les Français donnent. Là, dans cette crise, ce qu'il y a de spécifique, de particulier, c'est cet hébergement citoyen. Les Français ont ouvert la porte de leur salon, de leur chambre d'amis, ont prêté des studios, des résidences secondaires. C'est ça, je crois, l'élément un peu spécifique de la générosité, de cet élan solidaire qui s'est manifesté à l'occasion de l'arrivée des Ukrainiens.
Joseph Zimet, si vous voulez bien, avant d'aller dans d'autres détails, un témoignage. Dominique, vous nous avez appelé au standard, vous êtes à la mairie de Sainte-Marie-de-Ré. C'est bien cela ?
Oui, bonjour. Oui, tout à fait, ouais.
Et comment se passe l'intégration ? Vous avez accueilli 4 femmes adultes et 3 enfants, c'est ça ?
Oui, tout à fait, avec d'autres gens qui sont arrivés entre-temps. Dès qu'ils sont arrivés sur Sainte-Marie-de-Ré, Madame le maire Gisèle Vergnon a mis en place une cellule d'intégration et d'assistance pour que ces gens puissent rapidement s'intégrer sur la commune.
Ils sont logés où ?
Alors, ils sont logés chez des bénévoles, des familles d'accueil, des gens qui ont des maisons et des chambres disponibles.
Est-ce que la question d'un transfert, d'un déménagement de ces réfugiés vers d'autres logements plus durables, peut-être dans d'autres régions, est-ce qu'elle se pose et est-ce qu'ils l'accepteraient le cas échéant ?
Alors, sur Sainte-Marie, les familles que l'on a, la question ne se pose pas. C'est les gens qui accueillent ont des maisons disponibles, qui mettent à disposition de ces immigrés, ces réfugiés, tant qu'à guerre durera en Ukraine.
Est-ce qu'ils ont trouvé du travail, en tout cas pour les adultes ?
Alors, avec la cellule que Gisèle Vergnon a mis en place, on a trouvé des travaux, alors du travail pour eux, principalement dans la restauration de l'hôtellerie, parce que l'île de Ré en ce moment souffre énormément de travaux pour le personnel pour les travaux d'été. Quoi.
Et encore une question, la scolarisation des enfants ?
La scolarisation des enfants s'est faite à l'école sans problème. En plus, on a pu avoir par l'école bleue, par une association d'école bleue, des vélos, des ordinateurs pour leur permettre de pouvoir se déplacer. Et à la mairie, on met aussi en place des cours de français, 6 heures par semaine de cours de français pour que ces gens puissent facilement s'intégrer. Quoi.
Merci beaucoup Dominique pour votre témoignage. Joseph Zimet, 2 questions. D'abord là, on est sur l'île de Ré. Haute zone touristique pour les réfugiés qui sont dans des logements collectifs, notamment des hôtels, des maisons vacances. L'été arrive et ces endroits vont se remplir de touristes. Qu'est-ce qui va se passer ?
Alors, ça nous inquiète un petit peu. On a une difficulté à qu'on anticipe cet été, effectivement, comme vous l'avez dit, la saison touristique reprend. Alors, le bon côté, vous l'avez vu, c'est que il y a du travail.
Oui. Hein.
Il y a des places dans les écoles, il y a du travail. Et le témoignage qu'on va entendre est emblématique de cette mobilisation à tous les niveaux, à tous les étages, des grandes métropoles jusqu'aux petites communes, aux plus petites communes. Tout le monde est sur le pont. Les associations, les bénévoles, les élus locaux, les collectivités, les résultat, il y a une grande chaîne de solidarité, de la Croix-Rouge dans les gares jusqu'à ces élus qui se mobilisent, etc. Alors, que nous arrivions à convaincre un maximum de ménages de se rediriger avant l'été, pendant l'été, vers ces fameuses villes moyennes où on a du logement. Certains vont rester. On va avoir du mal à convaincre un certain nombre de déplacés de quitter des villes où ils ont déjà des enfants scolarisés, ils ont déjà trouvé du travail, ils sont en train de trouver du travail. On estime à près 3500 le nombre de contrats signés ou en train d'être signés. Donc, vous voyez, ça décolle. On a un mouvement d'insertion professionnelle, une très belle mobilisation de Pôle emploi. Donc, on est assez optimiste sur la capacité des Ukrainiens avec l'acquisition de la langue, à trouver, à travailler, s'autonomiser.
Je m'arrête sur les 3500 contrats. C'est beaucoup, me semble-t-il.
C'est pas mal parce que, évidemment, parmi les 95 000 que nous accueillons, tous ne sont pas des actifs. Donc, si on considère qu'on a à peu près un tiers de personnes qui peuvent travailler, ça veut dire que 10% à peu près sont en train de cheminer vers l'emploi.
Quel type d'emploi ?
Pour l'instant, j'ai pas encore la ventilation territoriale, mais 30% secteur HCR, hôtellerie, restauration, sans surprise, qui est un secteur, vous le savez, en forte tension depuis plusieurs mois après l'épidémie de Covid.
Le profil de ces familles laisse penser qu'ils n'ont pas forcément envie de rester en France. Les maris, les pères, les garçons sont restés en Ukraine. Qu'en est-il ? Est-ce que vous avez une idée des intentions ? Est-ce que vous les mesurez ?
C'est la question la plus difficile que tous les pays européens se posent. Il y a aujourd'hui 8 millions de déplacés à l'intérieur de l'Ukraine qui ont basculé d'Est en Ouest pour faire court. Vous avez 6,5 millions de déplacés dans les pays de l'Union européenne. Il n'est pas imaginable, compte tenu de l'instabilité de la situation, que tous rentrent à l'été. Oui. Donc il faut se préparer. Vous savez, dans cette crise, depuis le début du mois de mars, on va d'hypothèse en hypothèse. Oui. On travaille, on planifie, on s'organise. On a fait ce qu'on appelle dans le jargon des opérations de desserrement. On prévoit là un plan ville moyenne. Il faut anticiper. Là, nous devons anticiper la tension de l'été avec moins de chambres d'hôtels disponibles pour l'hébergement collectif, moins de centres de vacances. L'entrée dans le logement, elle est engagée, mais elle prend du temps. Donc on va avoir un petit effet ciseau dans l'été, avec un manque de place. Il faut que l'hébergement citoyen chez les particuliers tienne. Et donc, il faut qu'on arrive à convaincre les Français de poursuivre l'accueil au-delà des 3 mois, pour aller au-delà de l'été. Voilà un petit peu l'enjeu qui nous attend.
Allez, encore deux témoignages. Marthe d'abord au standard. Bonjour Marthe.
Bonjour monsieur.
Vous accueillez 3 personnes chez vous. Vous êtes où, Marthe? Pardon, j'ai pas ça sur ma petite fiche.
Je les accueille sur Marseille.
Vous êtes
mais
à Marseille.
Là, actuellement, je suis dans les Vosges.
Oui.
Voilà, et où je passe mes vacances. Voilà.
Est-ce que ça se passe bien?
Ça se passe super bien. Ça se passe, on ne peut mieux. J'ai été mise en contact par l'intermédiaire d'une association ukrainienne. Et donc j'accueille une petite fille de 5 ans, Milana, sa maman 25 ans, 3 jours après son arrivée nous faisions son anniversaire, Irina, et la grand-mère, Olana, qui a 49 ans.
Et donc au fil des semaines, le climat reste bon, il n'y a pas de difficulté pour vous, parce que ça peut apparaître, on va l'entendre dans un instant, pour vous, pour l'instant, la cohabitation se passe bien?
La cohabitation se passe bien parce que j'ai la chance d'avoir une maison où je peux le faire, je peux les accueillir sans problème, d'une part, et où je suis une personne, j'ai 78 ans, mais j'ai toujours accueilli du monde chez moi.
Merci Marthe pour ce témoignage. Isabelle, autre témoignage, vous avez accueilli 3 personnes, alors vous, où êtes-vous ?
Moi je suis à Orléans.
À Orléans, et vous dites l'expérience a été plus compliquée, ça demande une énergie folle.
Ah oui, alors moi c'était à peu près la même composition de famille, j'avais la grand-mère un peu plus âgée qui avait 57 ans, la fille pareil qui avait Dasha avait 25 ans et demi et puis Sergueï 5 ans et demi, donc c'est à peu près la même constitution de familiale, sauf que ces personnes-là arrivent avec leur passé, leur vécu et leur caractère. Et moi, par exemple, la grand-mère a été absolument odieuse dans l'injonction, l'exigence et sans reconnaissance. Moi, elle m'a dit une seule fois bonjour en 8 jours. Malheureusement, j'ai mis fin à l'accueil au bout d'une semaine parce que j'endormais plus la nuit, j'en étais au bord de vomir et je me suis dit, il n'y a pas de raison de m'imposer ça. Par contre, bon, sa fille ne la supportant plus non plus.
Bon. Voilà. Merci Isabelle pour ce témoignage. Joseph Zibet, il nous reste très peu de temps. Quelle aide est-ce qu'on peut apporter aux familles qui accueillent? La moitié des 95 000 réfugiés ukrainiens sont à peu près la moitié accueillis chez des particuliers. Comment aider ces particuliers?
Écoutez, d'abord, beaucoup le font par conviction et n'attendent rien. Donc, il faut respecter ça et s'en réjouir. Oui. D'autres, ils commencent à se manifester. Il y a une charge, vous l'avez vu, morale. Et puis, il y a un coût économique avec l'inflation, les conditions, etc. Bon, donc, on est en train de regarder, d'étudier l'efficacité éventuelle de dispositifs de soutien qui sont à l'étude, s'il s'avère qu'on risque d'avoir un effondrement de l'hébergement citoyen, ce qui n'est pas encore complètement avéré. Il y a une situation très contrastée, vous l'avez vu avec ces témoignages d'auditeurs, en fonction des départements et des territoires. Donc on est extrêmement attentif, on discute, on a les capteurs, les associations, les services de l'État, les collectivités. Il faut passer l'été. Voilà, parce qu'une majorité, on pense, sera encore là à l'automne. Les enfants vont devoir être réinscrits dans les écoles.
Alors voilà, c'est ma dernière question.
18 000 enfants scolarisés. C'est un immense succès de l'éducation nationale.
Et pas de souci pour la rentrée, c'est ma dernière question.
Pas de souci. Il va falloir reloger, donc réinscrire. Ça sera ça. Mais l'éducation nationale est prête. Elle a fait un formidable travail depuis le début de la crise. 18 000 enfants scolarisés. C'est un très, très bon bilan. Maintenant, on va avoir des desserrements et des relogements dans de nouvelles régions, ces fameuses petites villes moyennes, où il va falloir réinscrire les enfants. On n'est pas inquiet sur ce terrain-là.
Merci beaucoup, Joseph Zimet, préfet chargé de la cellule interministérielle d'accueil des réfugiés ukrainiens. 95 000 personnes accueillies aujourd'hui en France après quasiment 100 jours de guerre en Ukraine. 13h45.
France Inter. Le 13-14.
Dans 10 minutes, le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Nous avons beaucoup parlé d'une reine pendant la première partie de ce journal. Une autre reine dans le vif de l'histoire.
Bah oui, celle-ci, Cléopâtre, elle règne sur les arts et les lettres depuis avant notre ère.
À tout à l'heure pour le vif. Le feuilleton avec les auteurs en lice pour le prix du livre Inter. Maria Pourchet aujourd'hui avec Eva Bétan. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Ce jeudi marque la deuxième édition de la fête de la radio et à cette occasion, une réalisatrice radio de France Inter à votre micro, Juliette Gou, qui travaille ici depuis une vingtaine d'années.
Et c'est d'un souvenir d'enfance que Juliette Gou a choisi de me parler, évoquant à la fois son père et un chanteur qu'il adorait et qu'elle-même adore, Bernard Lavillier, avec l'un des succès de son album « Au Gringo ».
Mon père a acheté l'album en 1980 quand il est sorti. Donc je l'ai beaucoup, 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 beaucoup entendu parce qu'il écoutait beaucoup de musique, mon père. Et en fait, je me souviens surtout de la pochette de cet album. Après coup, j'ai découvert que c'était Mondino qui avait fait la photo. Mais bon, moi, à 7-8 ans, je m'arrêtais juste sur la photo. Et on voit Lavillier dans une chambre, sans doute une chambre d'hôtel. Il est très beau, il est en jean bien moulant avec un débardeur blanc. Il est tout bronzé, il est assis sur un lit. Il y a un ventilo à côté de lui, des valises. On a l'impression qu'il est dans un pays très chaud et qu'il est très très heureux.
Tout le gang était là. Ceux de Porto Rico, ceux de Cuba, les macros de Harlem, les revendeurs de coke ou de coca, ceux qui vivent au soleil, avec des femmes blanches dans les villas et ceux qui mangent pas. Ça fait comme des nababs à l'opéra. La voilà.
C'est une latine de Manhattan, de la résine, de macadam, un peu de fouet, de haut en bas, qui te soulève, c'est la salsa.
C'est une frangine portoricaine, et dans le Spanish Harlem, les racombrés au bon endroit, elle est superbe, c'est la salsa.
La salsa, donc, on l'aura reconnu Bernard Lavillier, Frédéric Pommier.
C'est la deuxième chanson de l'album Au Gringo. Et quand elle était petite, c'est vraiment celle qui plaisait le plus à Juliette Gou, dont le père, d'ailleurs, m'a-t-elle dit, ressemblait vaguement à Bernard Lavillier.
Je la trouvais électrisante. Je trouvais que c'était vraiment un truc explosif, qu'on ne pouvait pas rester assis, il fallait danser. Et moi, petite, de toute façon, j'adorais danser. Et donc, c'était ma préférée. Et puis, en fait, mon père avait un jeu. C'était presque un exercice mental qui me faisait faire sur toutes les chansons, et particulièrement sur celle-là. Mon père me faisait décomposer les musiques. C'est-à-dire qu'on disait, alors, tu t'installes, t'écoutes, Vas-y, écoute la basse. Tu n'écoutes que la basse. Après, c'était tu écoutes le piano, les percussions. T'entends ? Et puis après, c'était le chanteur. Donc, j'écoutais la vignée chanter, mais en fait, moi, j'écoutais toutes les couches. On démixait, en fait, parce que maintenant, voilà, je suis réalisatrice de radio, je sais ce que c'est qu'un mixage. Mais en fait, petite, je m'astreignais, je trouvais ça très difficile à écouter qu'une partie de la chanson et après à en faire un tout.
Tout seul dans la nuit chaude, je la garde serrée contre mon cœur, malgré la mort qui rôde. Chuchotant quelque chose à son chauffeur, y en a marre des palaces. Elle s'en va faire des passes pour le panard, je la suis à la trace, ramassant ses paillettes sur le trottoir.
Est-ce que ça veut dire que quand vous entendez la voix de Bernard Lavilliers, d'emblée ressurgit le visage de votre père et ses souvenirs que vous avez avec lui?
En fait, ce qui est incroyable, c'est que mon père, à un moment dans sa vie, il a quitté la France. Il a vécu dans plein de pays. Il a vécu à New York. La salsa, c'est la musique latine de New York. Et il a sillonné l'Amérique latine. Il a vécu au Brésil, il a vécu à Salvador de Bahia, qu'il adorait. Il a vécu en Argentine. Et en fait, il a fini sa vie en Colombie. Et du coup, avec ce souvenir que j'ai de notre écoute de la salsa, maintenant j'ai aussi cette image de mon père dans peut-être des chambres d'hôtel, en tout cas en voyage loin. Alors, est-ce que Lavilliers lui a un peu donné l'idée de passer sa vie sur les routes et dans les chambres d'hôtel? Voilà, c'est des univers qui se mélangent pour moi, quoi.
Et cette façon d'écouter la musique que vous a transmise votre père, c'est quelque chose que vous continuez à faire?
C'est quelque chose que je continue à faire. Et parfois, je me dis, mais arrête, enfin, c'est trop, écoute juste comme tout le monde, en disant, ah, c'est sympa cette chanson, mais en fait, je ne peux pas faire autrement.
La salsa de Bernard Lavilliers, c'était donc Frédéric Le Choix de Juliette Gou qu'on embrasse.
Notre amie Juliette Gou, aujourd'hui réalisatrice à France Inter.
13h50. Avant-dernier rendez-vous entre Eva Bétan et les auteurs en lice pour le prix du livre Inter. Aujourd'hui, Maria Pourchet, autrice de Feu chez Fayard. L'adultère, la passion qui surgit à la quarantaine. Le sujet est classique, la manière de l'écrire nettement moins. Maria Pourchet donne la parole tantôt à l'un des amants, tantôt l'autre, à chacun son chapitre, à chacun son ton. Le résumé de l'histoire et entretien, Eva Bétan, s'il vous plaît, avec Maria Pourchet.
On pourrait croire qu'ils sont trois dans cette relation aux variations sur un thème connu, la femme, son mari, son amant, mais ils sont quatre. Car Clément, l'amant donc, a son bouvier, son chien de 60 kilos et on verra que son poids est important, il l'appelle papa. Sa vie à Clément, c'est, dit-il, Tinder, Croquette et France Inter, merci. Les femmes ne savent pas que je suis quasi mort, tu parles d'un séducteur. Et pourtant, la passion leur la veut, malgré le risque qu'elle a de perdre sa famille, et lui la craint, alors qu'il n'a rien à perdre si ce n'est sa solitude. Chacun parle à son tour dans ce livre qui leur donne la parole en alternance. Il est rare que le premier adjectif qui vienne en lisant un livre d'amour, c'est insolent. Il y a de l'humour, il y a de la vacherie même, il y a de la tendresse, mais vous la cachez. On a l'impression que vous écrivez avec un chalumeau.
L'insolence, c'est ce qui a résisté de ma propre enfance ou de mon adolescence. C'est ce qui est resté en veille, mais j'ai toujours regretté d'avoir dû faire taire. La voix adolescente, la voix contestataire, offensive, gouailleuse. Et un livre est toujours l'occasion de la réveiller.
Vous posez l'équation de l'amour d'une manière particulière. Ça pourrait être quasiment un film de science-fiction, comment on réveille un mort. Et le mort, ce serait Clément. Je vais lire un extrait. Voici ce qu'il dit à sa mère, qu'il déteste d'ailleurs. « Cette femme s'appelle Laure, elle-même, comme quoi. Pour le moment aveugle, mais pas trop con, Laure comprend peu à peu ce qui l'attend en termes de nous. Rien. » Absolument rien au-delà du pronom. C'est une femme avec des idées, je suis un homme avec un chien, je ne peux pas être partout, je ne supporte que les fictions, elle a toujours la nostalgie de la vérité. Son idée c'est vivre, les miennes c'est attendre, un chien devant moi, bref, vous voyez. Quelle est cette vision de la masculinité que vous nous montrez ?
C'est quelqu'un qui a renoncé. J'ai toujours trouvé ça intéressant dans un monde où on vit quand même cerclé d'injonctions. L'essentiel, c'est de participer, le continu. J'ai toujours trouvé ça assez violent. Renoncer dans une société comme la nôtre, la société du just do it, j'ai toujours trouvé ça assez admirable. Donc moi, je l'aime bien, Clément, pour ça. Je trouve que c'est une vraie philosophie de savoir renoncer. Clément, c'est quelqu'un qui se retire du champ viril.
Alors, vous allez loin, parce que moins sexy tu meurs. Il a des pannes, on va dire.
Mais ça peut être très sexy, ça. Ce qui n'est pas sexy, c'est l'absence de nuance, le triomphe. Il est sexy dans ses faiblesses, justement, et dans l'aveu de ses faiblesses. Il est sexy dans la solitude. Il n'y a pas plus érotique que la solitude, pour beaucoup de femmes. Enfin, que la solitude d'un homme, je veux dire.
D'habitude, si j'ose dire, dans les triangles amoureux, le mari a une place importante. Ici, c'est plutôt la fille qui est le témoin de la passion que vit sa mère.
Ouais.
C'est très intéressant ce rôle de regard et de juge que vous donnez à l'enfant.
C'est un des grands étonnements de ces dernières années. C'est des jeunes gens qui pouvaient voir dans notre génération une faillite morale, culturelle, climatique, je vous en parle même pas, une faillite politique aussi. Et je m'attendais pas à ce regard-là. Moi, j'avais pas cette sévérité-là vis-à-vis de mes parents. Je partageais les mêmes illusions qu'eux, les mêmes idéologies. Et je m'attendais pas à ce sentiment qu'on a engendré notre tribunal. Et c'est vraiment ce que je voulais faire incarner par Vera. Cette fille qui représente le principe moral presque puritain à la place des adultes, ça c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de travailler.
Maria Pourchet, autrice de Feu chez Fayard avec Eva Bétan, entretien à retrouver plus longuement sur franceinter.fr, réalisation du feuilleton Lucie Lemarchand.
France Inter, le 13-14.
Allez, le jour du jubilé de platine d'Elisabeth II, une reine dans le vif de l'histoire qui exerce son pouvoir de fascination depuis 21 siècles. Son histoire d'amour avec Antoine, qui contrôlait la partie orientale de l'Empire romain, rival d'Octave à Rome, est restée célèbre plus de 21 siècles même. La pièce de Shakespeare, Antoine et Cléopâtre, est représentée en ce moment aux ateliers Berthier à l'Odéon, Jean Lebrun.
Elle a été montrée pour la première fois à Londres, 1606-1608. Quand il l'a écrite, Shakespeare avait sur sa table son exemplaire de Plutarque et dans la tête la mémoire du règne d'Élisabeth. La première, qui venait à peine de s'achever. C'est quand même pas mal de parler d'Élisabeth la première. Le jour du jubilé d'Élisabeth, peut-être la dernière. Alors, début XVIIe siècle, les puritains, de plus en plus pressants, attaquaient le théâtre, incriminaient les femmes, et Shakespeare voulait d'un même élan défendre les uns et les autres. Alors, la pièce commence par les propos d'officiers romains qui condamnent le comportement de leur chef Antoine, qui se noie dans les délices organisés par la reine d'Égypte, Cléopâtre. Tous deux gaspilleraient l'huile de toutes les lampes de leur palais jusqu'à l'aube. Elle est dépeinte par les officiers Cléopâtre comme une putain qui a fait d'Antoine un ivrogne qui aurait renoncé à son devoir, qui est de maintenir la grandeur et l'unité de Rome. Shakespeare expose ce point de vue de la vertu sans le partager. Ne vit-il pas dans une Angleterre où on est accoutumé à voir des femmes sur le trône ?
Et Cléopâtre, c'est une souveraine de première grandeur, porteuse d'une vision.
Frédéric Pommier dans le rôle d'Antoine le jour de la rencontre.
Cette barque où elle était assise, on eût dit un trône étincelant, on eût dit des flammes posées sur l'eau, et la poupe était de l'or battu, les voiles de la pourpre et si parfumée que les vents alentour en défaillaient de désir.
Cléopâtre, qui aime tant les eaux, avec Antoine qui lui conquiert Chypre, la Crète, la Phénicie, crée un vaste domaine amphibie, héritier du royaume hellénistique des Lagides. Et elle voudrait le transmettre ensuite aux enfants qu'elle a eus d'Antoine et aussi à Césarion, le fils qu'elle a eu de César. Si le nez de Cléopâtre... La remarque de Pascal est assez juste. Et oui, la face du monde aurait été changée si, en symétrique de Rome, s'était dressée une autre puissance équivalente, capitale Alexandrie.
Mais à Rome veillait Octave, le futur Auguste.
Alors, aux ateliers Berthier, la mise en scène de Célipote le présente comme un homme de méthode, d'application. Pas nécessairement un homme de vertu. Oui, l'histoire a été écrite par les vainqueurs et on a oublié la mauvaise réputation qui entourait Octave Auguste à ses débuts. Menteur, prédateur sexuel peut-être. Alors après sa victoire d'Axium, 31 avant notre ère, sur Antoine et Cléopâtre, Octave apparaît chez Shakespeare, autrement fourbe que la reine, alors qu'elle est complètement désemparée. Il lui multiplie les fausses promesses et en réalité, il veut la ramener prisonnière dans son triomphe. Veut-il me montrer à la populace hurlante, des esclaves aux tabliers sales, des ouvriers portant règles et marteaux, me hisserait à bout de bras à la vue de tous.
Et Shakespeare présente la mort des deux amants comme un chemin de liberté qu'il se taille dans la douleur.
Antoine se suicide dans le grand style de Rome et Cléopâtre s'invente une mort dont on discute encore. L'aspic qu'il aurait piqué pourrait-il Rester tranquillement longtemps au fond d'un panier alors que la température ambiante, 40 degrés, devrait l'inviter à sortir. « Attends-moi », lui avait dit Antoine, « nous irons main dans la main, notre avancée radieuse étonnera les ombres. » Et en effet, le destin de Cléopâtre ne s'est pas achevé avec sa mort. Célipote utilise un opéra de l'époque de la Renaissance égyptienne, les années 1920, qui met en scène Cléopâtre. C'est un des plus beaux moments d'ailleurs de ce spectacle, en partie chanté. « Voici la merveille du monde et la plus belle de tous les temps. Elle renaît dans une chaloupe formée de tous les arts. »
Antoine et Cléopâtre de Shakespeare, mise en scène Célipote. C'est aux ateliers Berthier de l'Odéon jusqu'à demain. Merci Jean Lebrun et bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Quel programme pour la Terre au carré?
Alors on va parler des bidonvilles aujourd'hui avec le philosophe Thierry Pacaud.
À tout de suite.